Ok, 2 Chroniques, chapitre 20. Au moins, il va donner la référence. Non, il n'y aura pas manqué grand-chose. J'ai 2 lignes de fait sur mon message ici. Lorsque le peuple de Dieu regarde à l'Éternel, comme on le voit au verset 12, il s'humilie, mais que par la foi, il regarde à lui pour la délivrance, Dieu va faire un œuvre qui va, oui, commencer avec son peuple, mais qui va déborder. Les perdus vont en être affectés. Tu sais, on parle des réveils. Wow, il y a beaucoup de gens qui ont été sauvés dans tel réveil. Aux États-Unis, le Great Awakening, le premier, le deuxième, les îles britanniques, il y a eu plusieurs. Ça a commencé avec le peuple de Dieu, que Dieu a touché, puis il y a eu un impact. Les non-sauvés en ont été bénis. La lumière de l'Évangile a débordé en dehors des églises, a été un effet bénéfique pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est pour ça que je veux commencer avec ça. Si vous êtes ici, vous connaissez le peuple de Dieu. Si on veut que Dieu se révèle aux perdus, il faut qu'on le laisse se révéler à nous et qu'on s'humilie par rapport à ce qu'il nous dit à nous. Et je crois qu'on a au verset 3, là où tout commence, notre disposition. Regardez le verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Tout commence avec la disposition spirituelle du peuple de Dieu à rechercher Dieu, Dieu lui-même. Pour qu'il soit notre secours, notre refuge, notre espérance, notre tout. D'où le titre de ce matin. C'est un long titre, ça rentrait pas. Mais je me suis fait suggérer peut-être qu'on devrait faire... Ça, c'est 8,5 par an, on devrait faire 14 par an, en tout cas. Mais bon, peu importe. C'est reste, ça, c'est le bulletin. Moi, j'ai juste la feuille blanche, mais bon. Le titre du message, c'est « La disposition spirituelle pour que Dieu se révèle aux perdus ». Cette disposition-là, c'est une disposition pas... Où est-ce que... Ah, on est donc... au-dessus de nos affaires, tout va bien, on est brave, on n'a pas de peur. Non, c'est dans notre frayeur de chercher l'Éternel. C'est ça la disposition qui fait que Dieu va se révéler, oui, à son peuple et ensuite aux perdus, lorsque du sein de notre frayeur, de nos peurs, on invoque son nom, on le cherche, lui. Et ça, mes amis, je pense que c'est ce que le monde a besoin. Les besoins, le monde n'a pas besoin de nous voir, ah, ils sont donc braves, ils sont donc bons, puis tout ça. Non, ils ont besoin qu'on s'identifie à eux, que nous aussi, on a des peurs, comme eux autres. Nous aussi, on a des luttes, comme eux autres. Mais on connaît celui qui est plus grand. On connaît celui qui est au-dessus, celui qui secourt ceux qui se tournent vers lui. C'est ça la différence. C'est pas qu'on est meilleur que personne, c'est qu'on connaît celui qui est meilleur que tout le monde. C'est ça la différence. Le monde n'a pas besoin de voir des super chrétiens. Puis en passant, je ne pense pas que ça existe, là. Parce que premièrement, ça peut être repoussant, quelqu'un qui est rempli de ta justice propre, qui se pense donc bon. Ou s'il est trop attirant, qui a du charisme, puis tout ça, ben c'est pas mieux, il l'attire à lui, puis il ne l'attire pas à Jésus-Christ. Les gens n'ont pas besoin de super chrétiens, ils ont désespérément besoin d'être délivrés de ce siècle présent méchant, en voyant des chrétiens qui eux-mêmes sont aux prises avec les mêmes choses qu'eux, mais qui humblement se tournent vers le Dieu vivant, qui combat, qui vainc, qui est leur victoire. Ils ont besoin de voir Jésus-Christ qui est doux et humble de cœur, de façon incarnée dans nous qui sommes son corps. Et Jésus a dit ça il y a 2000 ans. Mais nous sommes son corps. Et Jésus, qui était doux et humble de cœur, son corps doit représenter ça pour ce monde perdu. Venez à moi, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. On va voir ça dans un message plus tard, vous allez voir. Mais lorsque le peuple de Dieu est disposé comme ça, à dépendre de Dieu, à se placer sous sa direction, à s'appuyer sur sa sagesse, Dieu fait des grandes choses. Et c'est ce qu'on voit dans le chapitre qu'on va considérer aujourd'hui. Et on le voit au verset 29, ça sème même la terreur parmi ceux qui ne connaissent pas l'Éternel. Et plus que jamais, notre monde confus, notre monde perdu, notre monde dans les ténèbres a besoin de voir l'Éternel qui combat pour son peuple qui, oui, est faible, humble, mais qui se confie en lui. Je partageais avec un frère cette semaine, des fois on prend Philippiens 4:13, un peu hors contexte, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Paul disait ça, lui qui, des fois, était dans l'abaissement, des fois... Ça allait bien, mais dans toutes les circonstances, il s'appuyait sur Dieu. Il dit, peu importe dans quelle situation Dieu me met, je puis tout par Christ qui me fortifie. Et c'est ça que le monde a besoin de voir. Et pour nous ici, dans le temps dans lequel Dieu nous a placés, c'est le temps pour nous de chercher l'Éternel, de l'invoquer tandis qu'il est prêt. Dans une sainte crainte de son nom. Et ça, ça a un impact. Je vous dis juste deux versets, deux passages plutôt, je devrais dire. Dans le livre des Actes, vous savez, lorsque le premier message a été prêché à la Pentecôte par Pierre, et que là, il y a beaucoup de gens qui ont été sauvés, puis là, ça décrit que l'Église, toute naissante, persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et se faisait beaucoup de miracles et de prodiges par les apôtres. Puis ça continuait à la fin de ce passage-là, ça dit « Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait à chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Je pense qu'il y a ici un lien clair entre une crainte qui s'emparait de « Wow, Dieu est ici, c'est pas n'importe quoi qui arrive ici », puis le fait que Dieu ajoute. J'ai un autre passage là-dessus. Lorsque Jésus... les événements entourant la naissance de Jésus avec son oncle qui avait arrêté de parler, puis lorsqu'il s'est mis à réouvrir la bouche, que Dieu avait délié sa langue, il parlait en bénissant Dieu, et ça dit, donc c'est Zacharie là, qui était muet, et que là il s'est mis à parler, puis ça dit que l'effet de ça, la crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et de toute la montagne de la Judée. Et on s'entretenait de toutes ces choses, tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur. Ils méditaient là-dessus en disant, « Que sera cet enfant? » Et la main du Seigneur était avec lui. Lorsque le peuple de Dieu est saisi par le Dieu vivant et que Dieu fait une œuvre, ça a un impact sur le monde alentour. C'est ce que j'aimerais qu'on voit avec trois dispositions spirituelles pour que Dieu se révèle au perdu. La première, on a ça dans les versets 3 et 4. On a déjà lu verset 3. On va relire 3 et 4. Elle dit, « Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. » À deux reprises, dans ces deux versets-là, ça nous dit que le peuple cherchait l'Éternel. Il le cherchait lui. Lui, sa présence, sa face. Pas juste sa main, pas juste les choses qu'il peut faire, mais lui. Lui. Je pense qu'il y a un cantique qui a peut-être été écrit par Josaphat à quelque part. Il faudrait mettre les TC sur le dossier, mais ça dit « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? » Bon, là, je blaguais, là, je pense pas que c'est vieux à ce point-là. Là. Mais c'est l'esprit ici. Il veut dire, il était dans la frayeur, mais il avait vraiment soif de l'apprécier. Ça, chercher Dieu, chercher sa présence, lui. Et tout commence là. Et c'est le but d'ailleurs de Dieu, lorsque Dieu nous envoie des épreuves, des circonstances difficiles, des relations difficiles, c'est pour que nous le cherchions et qu'ainsi on le trouve lui. Et lorsque le peuple de Dieu est saisi comme ça par la présence de Dieu en son sein, elle a un impact inouï sur le monde autour de lui. Vous savez, on parle des fois, même vous connaissez peut-être par cœur, le fruit de l'esprit, Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Vous savez que le fruit de l'esprit, c'est un moyen puissant d'évangéliser, d'influence spirituelle pour les gens autour de nous. Pourquoi? Parce qu'on trouve ça nulle part ailleurs. C'est le produit authentique. Et c'est sorti tantôt, je dirais que dimanche matin, c'est facile d'être spirituel puis d'être dans la louange. Mais un lundi matin ou un mardi, quand ça va pas, quand il y a un autre... Puis que là, le Saint-Esprit produit son fruit dans la vie de ses enfants. Il y a quelque chose d'unique, de saint, d'apport... de Dieu, qui porte la signature du Dieu vivant. Et ça laisse souvent le monde perplexe. Parce que c'est pas normal de réagir de même. C'est pas normal pour un Yosef Tson, probablement que vous connaissez nos amis en arrière. Ici, on connaît Yosef Tson, je sais pas si vous le connaissez, mais ici on l'aime beaucoup. C'est pas normal qu'un Yosef Tson face à la sécurité qui voulait le briser, qui répond avec ce que lui appelle l'agression de l'amour. C'est-à-dire que il dit, d'habitude, les gens ont de la haine pour nous autres lorsque on fait ce qu'on fait avec vous, M. Tson. Il dit, monsieur, je prie pour vous, pour votre famille, à tous les jours, pour que vous puissiez connaître celui que je connais. C'est pas normal de réagir de même. C'est pas normal pour un Étienne face à ceux qui s'apprêtent à le lapider, à demander la bénédiction puis à rayonner comme un ange de Dieu. C'est pas normal. C'est pas normal même pour toi au travail. Parce que ça arrive, des fois, il t'arrive des choses, t'es accusé, t'es mal compris, mais que tu réponds à la moquerie, à la méchanceté avec patience et de façon christique. Toi qui, normalement, as un tempérament qui bouillonne. C'est pas normal. C'est de Dieu. C'est ça que ça veut dire chercher l'Éternel. C'est pas d'être au-dessus de ses problèmes, au-dessus de ses affaires, c'est de crier à Dieu du sein de nos problèmes. C'est ça la différence. C'est chercher l'Éternel. C'est là, dans la situation, là, si on est pris avec nous-mêmes, on est malheur à nous. Mais on tourne les regards, ça va être le prochain point, mais on crie à l'Éternel, on regarde à lui pour la délivrance. Ah, j'aime le psaume 34. Je l'aime au complet, mais je vous ai gardé deux versets. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Ce dernier verset nous rappelle comment quand on tourne vers Dieu les regards, c'est jamais en vain. On est rayonnant de joie, ça fait partie du fruit de l'esprit, la joie. Et notre visage ne se couvre pas de honte. Ça nous amène à notre deuxième point. Non seulement le peuple de Dieu doit être disposé à le chercher lui pour qui il est, mais aussi à regarder à lui. Regardez les versets 12 à 17. Ici, c'est une prière. On peut lire, « Ô notre Dieu, verset 12, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants. Comme une église ici, là, il y avait tout le monde, toute la gang. Les petits-enfants, les femmes, leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benadja, fils de Jehiel. Il y avait donc même de la parenté, ce gars-là. Fils de Matania, Lévite d'entre les fils d'Azaph. Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tout Judas et habitants de Jérusalem. » Et toi, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux et ils vont monter par la colline de Tits et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. La signification ici du verset 12, regardant l'Éternel, ça nous est donné au verset 15, où est-ce que lorsque cet homme-là commence à parler, il dit « Soyez attentifs, tout Judas, habitant de Judas et Jérusalem et roi Josaphat, craignez pas. » Ne soyez point effrayés. Soyez attentifs. Portez vos regards vers Dieu. Ici, l'idée de regarder à l'Éternel, c'est de ne pas se laisser vaincre, se laisser surmonter par la peur face à l'adversité. Tout le monde avait peur. C'est des ennemis redoutables. Mais il dit, laissez-vous pas vaincre. Regardez pas à ça. Attachez pas vos regards à ces ennemis. Mais attendez-vous, mettez votre confiance dans le fait que Dieu est celui qui va combattre pour vous. Regardez à l'Éternel, verset 17, c'est de ne pas être dans la crainte, de ne pas être effrayé malgré nos peurs. C'est regarder dans une attente ferme et confiante à celui qui va délivrer, parce qu'il est le seul qui peut délivrer. Et ça, c'est pas la seule fois que ça arrive dans le peuple d'Israël. Ça, c'est un endroit assez spectaculaire, mais ils en connaissaient un autre aussi, à la sortie d'Égypte, Exode 14. C'est quasiment dit de la même façon, mais c'est Moïse, lorsqu'il, vous savez, il était pris de tous côtés, puis il y avait juste la mer devant eux. Mais Moïse a dit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Cette confiance, cette assurance ne peut venir que par la conviction que Dieu est avec nous. L'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon salut. Que peut me faire un homme? Si l'Éternel est pour nous, qui va être contre nous? On doit être convaincu que vraiment Dieu est avec nous. C'est pour ça que la disposition à chercher l'Éternel et à regarder à l'Éternel, c'est inséparable. Parce qu'il faut être sûr qu'on a trouvé Dieu qui est là au milieu de nous. Puis là, on peut regarder à lui. C'est la base solide sur laquelle ça va reposer. Et j'aimerais amener que pour nous, la réalité néo-testamentaire, à la lumière de l'œuvre accomplie de Christ, qu'est-ce que ça veut dire pour nous de regarder à l'Éternel? C'est de regarder à la croix puis à la résurrection. Se voir comme étant mort au péché et vivant pour Dieu. C'est ça, regarder à l'Éternel, regarder à Dieu. C'est regarder à ce que Dieu a fait de nous en son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. C'est vivre à la lumière des faits qui sont là, accomplis, et les accepter, les voir comme étant une réalité. Oui, nous sommes vainqueurs, nous sommes purs, nous sommes saints en Jésus-Christ. Amen. Là-dessus, j'ai retenu un verset que j'aime tellement, l'ouverture, le chapitre au complet, le premier chapitre d'Éphésiens. Mais je vous ai juste gardé quelques versets. Il nous a prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Dans le bien-aimé, en Jésus-Christ, on est pleinement favorisé. On a tout pleinement en lui. Dieu nous voit complètement de façon favorable à cause qu'on est en Jésus-Christ lorsqu'on est son enfant. Et tout comme Josaphat et tous ceux qui étaient avec lui en Juda, à Jérusalem, Dieu met devant nous en ce moment le choix de la foi, c'est-à-dire de placer notre confiance dans la puissance, dans la vie de Dieu, versus la puissance de la peur, qui place la confiance en soi-même, dans les choses d'ici-bas et non pas en Dieu, qui place notre confiance dans nos armes charnelles au lieu des armes qui sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Il met nos pensées versus la pensée de Christ. On a le choix. Et face à ce que Dieu met dans notre vie en ce moment, individuellement, comme Église, on a le choix. Ça va dépendre où on regarde. Si on regarde à Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, celui qui suscite la foi et l'amène à la perfection, Dieu rémunère ceux qui le cherchent de cette façon-là. Et vous connaissez Deutéronome, chapitre 30, verset 5, vous n'aurez peut-être pas de la référence, mais ça dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Deutéronome 30, 19. Dieu met littéralement devant nous la vie et la mort maintenant pour que nous, en tant que peuple de Dieu, nous nous confions en lui, nous vivions par lui. C'est l'Éternel qui doit combattre. Vous savez, Dieu ne nous demande pas d'essayer de faire ci ou ça. Il nous demande de regarder à lui, qu'est-ce que lui peut faire. Le monde n'a pas besoin de ce que les chrétiens sont capables de faire. Il a besoin de voir ce que Dieu est capable de faire. Ça a toujours été de même, ce que Dieu est capable de faire. Vous connaissez l'épisode des serpents brûlants dans Nombre 21? La mort était dans le camp. Il était pris, puis qu'est-ce qu'il y avait à regarder au serpent pour avoir la vie? Nous, on est dans un monde de mort, on doit regarder à Christ qui est notre vie. Christ qui a vaincu la mort, c'est à lui qu'on regarde. Et c'est comme ça, c'est le regard de la foi qui produit la vie. C'est ça qu'on a besoin. Connaissez-vous Ésaïe 45, 22? « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. » Et ça nous dit ici, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Si vous êtes ici et vous n'êtes pas sauvés, tournez les regards vers celui qui a vaincu la mort, celui qui peut vous donner la vie. Celui, ce n'est pas une chose, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une affaire à faire, c'est une personne en qui se confier. Christ qui a fait ce que personne n'a jamais été capable de faire, il a mené une vie parfaite, il l'a offert à Dieu comme un sacrifice parfait. Lui, juste, est mort pour nous, injuste. Et donc, si vous n'avez pas Jésus-Christ, vous n'avez pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Est-ce que vous êtes passé de la mort à la vie? Est-ce qu'il y a un jour où est-ce que vous êtes né de nouveau par l'Esprit de Dieu? Si ce n'est pas le cas, aujourd'hui, tournez-vous vers celui qui donne la vie, vers celui qui est la vie. Et vous êtes ici, vous êtes un enfant de Dieu. La délivrance vient simplement en tournant vers les regards de nos circonstances, de notre présent, de nos problèmes, et les tournant vers le Dieu qui délivre, le Dieu des victoires. Arrêtez de lutter en vain, d'essayer plus fort, de vous débattre, d'essayer de vous en sortir, mais par la foi, tournez-vous vers celui qui est la victoire, qui a déjà remporté la victoire. Et ça m'amène à un point tellement merveilleux de notre passage. Lorsqu'on se tourne vers lui comme ça, on se tourne pour l'adorer. C'est la dernière disposition, non seulement de chercher l'Éternel, de regarder à l'Éternel, mais la disposition à adorer l'Éternel. Verset 18, « Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites, d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chants qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Et ne manquez pas, verset 22, « Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. » Et ils furent battus. Savez-vous quoi? Dieu attendait. Dieu, il aurait pu délivrer le jour d'avant, le jour d'après, mais il a attendu lorsque, tu sais, l'Éternel habite au milieu des louanges de son peuple. Lorsque son peuple s'est mis à le louer, à l'adorer, boum, Dieu est intervenu. Et j'aimerais qu'on voit ici, dans cette disposition à adorer l'Éternel, que ça vient lorsque je cherche l'Éternel, que mes regards se tournent vers lui. Il va se passer quelque chose dans ma vie, dans mon cœur, qui va s'incliner devant lui. L'adoration ici, l'idée, c'est de tomber la face contre terre devant ce Dieu trois fois saint, merveilleux, incomparable. L'adoration, c'est pas s'exalter. L'adoration, c'est tomber très petit et bas devant un grand Dieu. Regardez dans la Bible, ceux qui l'ont adoré, je veux dire, Ésaïe a vu l'Éternel, ouf! Il dit, malheur à moi! Il était pas gros, Ésaïe, quand il a vu l'Éternel dans sa gloire. Mais j'aimerais qu'on voit que nous, en tant que peuple de Dieu, notre acte d'adoration va avoir pour résultat un effet sur les gens perdus autour de nous. Et au verset 21, ça nous dit qu'ils se sont mis d'accord, puis d'accord avec le peuple. En tant qu'Église, lorsque d'un même accord, on dit, quand on prie, on symphonise, on est d'un même accord pour demander à l'Éternel. On est aussi quand le peuple de Dieu se met d'accord pour célébrer la victoire par la foi. Là. Ça ne veut pas dire qu'on l'a déjà, qu'on la voit. Mais n'est-ce pas qu'on chante « Nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire, oh viens bientôt Emmanuel. » Et donc, nous avons la victoire. Ça, j'aime toujours le rappeler. Pasteur MB, quand il était en Afrique, il y avait un livre de cantique, ça dit « Nous aurons la victoire ». Ils ont tout changé, le livre de cantique. Il dit « Non, nous avons la victoire ». Et rien contre les Africains, là, mais contre ceux-là qui ont fait ce livre de cantique-là, je ne sais pas ça venait de où, là. Mais il fallait que ça soit corrigé. Oui, nous avons déjà la victoire, mais sa pleine manifestation n'est pas toujours évidente. OK? Ça, c'est la réalité. Pas toujours évident sur le coup, Mais c'est là la célébration de la foi. Par la foi, on célèbre déjà la victoire qui s'en vient. Mm-hmm. N'est-ce pas qu'on célèbre déjà le fait que Christ a vaincu le monde? Puis oui, ce monde passe à convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Et c'est pour ça que j'aime tellement le verset 22, je l'ai souligné, au moment où il commençait les chants et les louanges. À ce moment-là, c'est là que la grâce de Dieu a fait ce que juste elle peut faire. Et elle a amené la délivrance. Une telle expression de foi par l'adoration du peuple de Dieu lorsqu'il est disposé à adorer l'Éternel comme ça en esprit et en vérité, c'est une démonstration du fait qu'on s'approprie la victoire. Lorsque le peuple de Dieu adore le Seigneur, de toutes les façons qu'on l'adore, là, c'est pas juste quand on chante qu'on l'adore. En esprit, en vérité, quand on se parle les uns aux autres, quand on dit avec nos offrandes, quand que, là, en ce moment, on est assis à ses pieds puis on se nourrit des paroles de vie, lorsque le peuple de Dieu, comme ça, l'adore en esprit et en vérité, c'est une expression du fait qu'on s'approprie la victoire qui est en Jésus-Christ. Et j'aimerais rappeler que c'est pas un one-man show du gars qui est là en avant puis qui parle, ou c'est pas pour chacun pour soi, chacun dans son petit coin. Non, c'est une disposition spirituelle à laquelle on devrait arriver tous ensemble, d'un même accord. Parce qu'on parle d'une menace qui est pour l'ensemble du peuple de Dieu, donc la solution doit être par l'ensemble du peuple de Dieu en solidarité qui recherche la délivrance de l'Éternel. Parce que nous sommes son corps. Nous sommes membres les uns des autres. Et donc c'est ensemble comme ça qu'on va glorifier Dieu lorsqu'on le cherche, qu'on tourne les regards vers lui et qu'on l'adore déjà par la foi dans la victoire, même si on ne la voit pas avec nos yeux de la chair. Maintenant, ça m'amène au verset 24 et 25. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur, d'où l'on aperçoit le désert, il regarda du côté de la multitude et voici, c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles et trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Ils en avèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Ça l'illustre la rémunération de la foi, non seulement dans la victoire que Dieu a donnée, mais Dieu, dans son abondance, a fait en sorte qu'ils ont pu avoir la dépouille comme ça, des richesses. Et on sait que ça, c'est très terrestre, c'était un moment comme ça, mais pour nous, notre récompense, oui, Dieu donne la victoire, la délivrance, mais aussi toutes les richesses qui sont en Jésus-Christ. Et je crois que lorsque le peuple de Dieu est disposé comme ça à le chercher, à tourner le regard vers lui puis à l'adorer, il va nous ouvrir les yeux sur les richesses incompréhensibles, merveilleuses, infinies qu'on a en Jésus-Christ. Ça, mes amis, c'est tellement précieux parce que c'est là, mais c'est de le voir. Puis quand on voit ça puis qu'on vit à la lumière de ce que nous sommes en Jésus-Christ, de ce que Dieu a fait de nous en lui, qu'on en jouit pleinement, abondamment et collectivement, mes amis, c'est unique. Ça ne se vit que dans le corps de Christ, dans l'Église du Dieu vivant. Autrement dit, la récompense de notre foi, c'est d'avoir beaucoup de Jésus-Christ, de sa vie, de sa grâce. Il est la réponse, il est la richesse, il est le trésor qu'on a ensemble. Et ça boucle la boucle d'avec là où on a commencé le message. Parce qu'en effet, Jésus-Christ est le plus grand besoin de ce monde, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est pas les politiciens, c'est pas que les choses qui vont mal se mettent à aller bien. Non, c'est Jésus-Christ. Puis s'il faut que ça aille mal pour que les gens voient qu'ils ont besoin de lui, ben ainsi soit-il. Parce qu'on n'a vu pas que juste pour le ici-bas terrestre. Mais lorsque le peuple de Dieu retrouve son Dieu, retourne à lui, et que le monde voit cela, et qu'il est saisi par cela, ça fait une grande différence, ça fait toute la différence. Donc, oui, le monde a besoin de connaître qui est Jésus-Christ, mais il faut que le peuple de Dieu reviennent à celui, à son premier amour. Et c'est là que ça va se passer pour que l'impact se fasse sur le monde. Et donc, ma question ce matin, Savez-vous, au verset 29, ça dit que la terreur s'empara de tous les royaumes des pays, des autres pays. Est-ce que la terreur de la perdition te saisit? Est-ce que si t'es pas encore sauvé, t'as une terreur du fait que la Bible dit que si on a le Fils, on a la vie, mais si on n'a pas le Fils, non seulement on n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur nous. Vous savez, tu peux passer de la terreur au bonheur, de la peur à la paix, de la mort à la vie. Tout dépend d'où est-ce que tu mets ta confiance. Pas dans cette église, pas dans tes parents, pas dans une personne que tu peux voir ici-bas, mais dans la personne, dans Jésus-Christ. C'est à lui qu'il faut que tu ailles pour le salut de ton âme. Et j'aime rappeler que Jésus est celui, c'est dit dans Hébreux 7:25, c'est aussi lui qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Si vous n'êtes pas sauvé aujourd'hui, vous pouvez aller à Jésus-Christ. Il dit, je ne vais pas mettre dehors celui qui vient à moi. Et vous êtes ici en tant qu'enfant de Dieu. Dieu met devant vous, devant nous tous, une situation unique, hein, n'est-ce pas, que depuis à peu près un an et demi, c'est pas dans l'ordinaire, mais c'est un peu une situation à la 2 Chroniques chapitre 20. Ça peut nous remplir de frayeur et tout ça, mais c'est quelle belle situation pour chercher l'Éternel, tourner les regards vers lui et l'adorer. Et c'est là qu'on va voir ce que l'Éternel est capable de faire. Lorsque d'un même cœur, d'une même foi, on le cherche lui, et c'est lui qu'on veut. Pas juste sa main, ce qu'il peut faire, mais lui. Et quand ça arrive, Dieu fait des choses extraordinaires parce qu'il habite au milieu des louanges de son peuple. Donc invoquons-le ce matin, ce Dieu vivant, pour qu'il fasse ce que juste lui est capable de faire. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as permis de prendre avec ta parole vivante. La parole, c'est l'épée de l'esprit. Seigneur, tu utilises ta parole pour faire ce que juste toi es capable de faire. C'est toi, Seigneur, qui prends la parole et qui convainc les perdus de péché, de justice et de jugement. C'est toi qui les conduis à Christ, qui te sert de ta sainte parole pour les conduire au pied de la croix. Seigneur, s'il y en a ce matin que c'est leur condition, on veut, Seigneur, te prier qu'ils puissent être sauvés aujourd'hui, qu'ils voient leurs besoins et qu'ils invoquent par la foi, qu'ils voient que tu sauves, tu es vivant, tu es vrai, tu ne mens pas. Et s'ils vont à toi, ils vont recevoir la vie. Et Seigneur, on te prie aussi pour chacun ici qui t'appartient, qui a été racheté par le sang de l'agneau. Seigneur, l'Évangile, c'est aussi qu'on est mort avec Christ et qu'on est vivant en lui, par la grâce de Dieu. Seigneur, on veut vivre dans cette réalité de la vie ressuscitée. On n'a pas besoin d'essayer de se crucifier nous-mêmes. C'est déjà accompli, Seigneur. On veut vivre à la lumière des faits accomplis de l'Évangile, la bonne nouvelle pour les chrétiens. Seigneur, merci que c'est simple ce matin. C'est simplement te chercher, tourner les regards vers toi. Et t'adorer, Seigneur, déjà pour la victoire qu'on a en toi. Seigneur, on veut s'unir ensemble et invoquer ton grand nom. Béni sois-tu, Seigneur, merci pour ta fidélité, ta grâce. Accomplis ton œuvre comme juste toi peux le faire. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen, si vous voulez prier.